Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Et le témoin ce vendredi, Gérard Noiriel, mon aventure avec le clown Chocolat.
Vous faites de moi une attraction, un animal de foire. Le brave nègre bien soumis qui se prend son coup de pied au cul en souriant.
Oui, les gens y sont très attachés.
Pourquoi vous me dessinez comme ça? C'est ressemblant?
Nous sommes inspirés des toiles de Toulouse-Lautrec dans lesquelles vous apparaissez. Ce sont les stéréotypes actuels, l'image que les gens se font des gens comme vous.
Vous êtes célèbre, Chocolat.
Chocolat, en effet, a connu 20 ans de succès à Paris avant et un peu après 1900. Seul d'abord, puis en duo avec le clown anglais Footit. En 1905, un changement de propriétaire du nouveau cirque, où ils avaient officié avec un bonheur constant, écarta Footit et Chocolat. Des deux, la fin de Footit fut peut-être la plus amère. Chocolat, disparu en 1917, ne se laissa pas aller à la déchéance. Il était soucieux de sa mémoire, celle du premier artiste noir à avoir rencontré l'assentiment de Paris, et particulièrement de ses élites. Néanmoins, l'oubli ensevelit longtemps, et l'un et l'autre, mais le passé est un combat où rien n'est définitivement joué. Les délaissés d'autrefois vaincus au point ne sont pas définitivement KO. Un exemple qui aurait dit Colin de Gouges, personnage de second rang de la Révolution, se retrouverait aujourd'hui à ce point sous les projecteurs. Eh bien, pareillement, Chocolat. La maire de Paris vient d'inaugurer sur la façade du nouveau cirque 251 rue Saint-Honoré une plaque en l'honneur de Chocolat. Et Footit, dans cet ordre. Une exposition ouvre à la Maison des Métallos et un film sort avec Omar Sy dans le rôle de Chocolat. Cette orchestration n'aurait pas été possible. Le travail de Gérard Noiriel, qui au départ cherchait un personnage historique qui illustre la diversification de la France, et puis, par étapes, s'est pris au jeu et a fini par se décider à le mettre en scène comme un héros, parce que un héros, ça se fabrique.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
Deux, voire trois spectacles sur Chocolat dans votre parcours depuis 2009. Deux livres, l'un et l'autre aux éditions Bayard. Le dernier, fort gros et fort intéressant, vient de paraître. Une exposition, je l'ai dit, à la Maison des Métallos. On va, dans cette émission, si vous le voulez bien, tourner les pages de votre journal. Parce que vous tenez un journal pour parler, dialoguer avec Chocolat depuis 2009.
Oui, c'est ça. J'ai ressenti à un moment le besoin de m'adresser directement à lui. On dit que, vous savez, l'historien Jules Michelet dialoguait avec les morts, donc je me suis autorisé aussi de ce dialogue avec le clown Chocolat.
Vous commencez à façonner le personnage, sans savoir que ça va avoir autant d'importance, dans une petite forge que vous tenez, parce que vous n'êtes pas seul, Gérard Noiriel. Avec des amis, j'allais dire des camarades.
Oui, ben je suis heureux que vous abordiez ce point-là, parce qu'au départ, c'est un projet collectif, un projet d'éducation populaire, avec les gens d'une association que je dirige, qui s'appelle DAJA. Et donc, nous voulions sensibiliser, notamment le jeune public, à la question des discriminations. Et mes amis artistes m'ont demandé si je pourrais pas leur trouver un personnage qui pourrait être le héros de cette histoire. Et j'ai cherché, je me rappelais vaguement d'une note que j'avais lue dans un bouquin évoquant Chocolat. Donc j'ai tiré le fil, et puis en tirant ce fil, il y a une histoire extraordinaire qui est venue.
En 1907, de supposées mémoires de Footit et Chocolat avaient été publiées par Franc Nohain, le papa de Jean Nohain. Une des premières choses que vous avez faites, vous devez raconter ça dans votre journal, c'est de vous procurer le livre de Franc Nohain.
Voilà, j'ai été chercher dans ce livre, qui est en fait un livre pour enfants, qui avait été publié avant en feuilleton, dans une revue qui s'appelait Jeunesse, et qui, je dirais, reste une source irremplaçable, parce que c'est comme ça qu'on apprend un petit peu de choses sur l'enfance de Chocolat, mais qui est vue à travers le prisme des préjugés racistes de cette époque-là, et donc qui nécessite un travail de décryptage extrêmement important.
Il n'est pas très prolixe quand il est interviewé par Franc Nohain sur sa naissance, Chocolat. Vous la situez vers 1865-1868, à La Havane, c'était un esclave.
Voilà, c'est un esclave, donc pas d'état civil, pas de nom de famille, pas de date de naissance. Et très peu de choses, parce que lui-même était, je dirais, extrêmement discret. C'est une partie de sa vie qu'il n'aimait pas évoquer à Paris à l'âge adulte. Et puis, il faut bien dire que les journalistes de l'époque n'étaient pas tellement curieux non plus. Ils avaient en face d'eux quand même quelqu'un qui avait vécu l'esclavage, et personne n'a été y voir de très près.
Cependant, il est plus prolixe quand Il parle à Franck-Nomin de son départ forcé, on pourrait dire sa déportation, vers 1875-1880, vers le Pays Basque.
Voilà, il est en fait acheté 18-11, j'ai trouvé dans le livre 18-11, et j'ai cherché, ça correspond à 4 mois de salaire d'un fonctionnaire de la Havane, et il a une dizaine d'années, donc on ne sait pas exactement évidemment l'âge qu'il avait, mais ce marchand espagnol qui était un grand colon, l'un des plus riches de Cuba, l'emmène avec lui dans le Pays Basque, dans un village, parce qu'il veut l'embaucher comme valet de ferme au bénéfice de sa mère.
Vous n'êtes pas très aimable avec les familles basques que vous traitez d'archaïques, parce que bon, les sœurs du propriétaire de chocolat pensaient qu'on pouvait, en le lustrant et le brossant très fort, le faire devenir un peu moins noir.
J'ai retrouvé cette anecdote parce que j'ai retrouvé le descendant de cette famille de colons, et effectivement, donc, les paysannes qui n'avaient jamais vu de noir ont voulu le blanchir avec une brosse à chevaux, et c'est la raison pour laquelle il s'est enfui et il s'est embauché après dans un cirque.
Il a été récupéré par Tony Grice, emmené à Paris, où il va travailler comme manœuvre, mais son rôle va peu à peu grandir, au nouveau cirque. Alors, vous nous avez dit que vous aviez commencé par faire un tout petit spectacle, des conférences théâtrales. C'est vous qui parliez ?
Oui, j'étais dans la première forme, c'était une conférence théâtrale, j'étais sur scène avec un comédien et un musicien. C'était une nouvelle expérience pour moi.
Mais un peu mobilisateur, quand le succès est venu, et vous avez décidé de faire une pièce, encore un petit format, mais avec une metteuse en scène, Isa Armand, et puis un excellent comédien qui s'appelle Gora Diakaté. Nous en sommes à ce moment précis, ce deuxième spectacle.
Chocolat Blues.
Chocolat Blues, en voici un extrait.
Nous sommes à Paris. On vient d'ouvrir un nouveau cirque près des Champs-Élysées. C'est le nouveau cirque. À la fin de chaque représentation, la piste se transforme en piscine, tout le monde dans l'eau. Mais chaque fois que j'apparais sur le bord de la piste, le public se tord de rire en me montrant du doigt. Pantomime nautique. À la fin, on finissait tous dans l'eau. Le marié, la mariée, monsieur le maire, les invités de la noce. Bref, tout le monde. Succès colossal. On l'a joué pendant des années, ce spectacle. Et c'est comme ça que je suis devenu une vedette. Le fameux, l'extraordinaire, l'inimitable, l'immortel chocolat. Chocolat est roi, chocolat est maître. Vive chocolat !
C'est le premier succès en 1888. Il est vu, je ne sais pas si on s'en rend bien compte avec cet extrait qui n'est que sonore, comme un mime, plus que comme un nègre.
Tout à fait, oui, on l'appelle à l'époque le Pierrot noir, et un certain nombre, dans les comptes rendus de presse que j'ai lus, certains ne croient pas qu'il est noir, parce qu'il y avait l'époque des minstrels où les blancs grimaient en noir, donc si vous voulez, ce qui est très intéressant dans la réception de ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas du tout de discours raciste. Bon, ça raconte l'histoire du mariage contrarié de Chocolat avec Colombine, c'est une histoire de Pierrot qui est mise au goût du jour, et c'est un succès colossal. Il faut imaginer que ça faisait 2 ans qu'il était en France. Il est un travailleur immigré, il ne parle pas le français, il n'a jamais fait de théâtre, il n'a jamais fait de cirque, et il a un succès colossal dans la salle de spectacle la plus prestigieuse de Paris.
L'année suivante, c'est l'exposition universelle de 1889, il s'aperçoit qu'il n'est pas le seul nègre à Paris.
Effectivement, la France veut célébrer son empire colonial qui est en pleine construction, et donc on fait venir un certain nombre de zouaves, de spahis, de tirailleurs sénégalais, mais comme il n'y a pas assez de représentants du monde colonial, vous avez aussi pas mal de Français qui se griment en noir pour augmenter la population, disons, nègre, comme on disait à l'époque, et tout le monde devient un peu noir à Paris pendant l'exposition universelle. C'est un côté que j'ai trouvé très amusant.
Au début des années 1890, il est très connu dans le quartier des Champs-Élysées, il est très connu aussi, vous l'expliquez longuement, à Montmartre. Il va faire la paire avec Foutit, sans doute encore plus connu que lui à l'époque, qui est un Anglais qui adore jouer des rôles féminins.
Voilà, alors Foutit a sa carrière. Lui, c'est un enfant de la balle, comme on dit, il vient d'une famille du cirque anglais. Son succès colossal, c'est un numéro qui s'appelle l'écuyère apprivoisée. Sa mère était d'ailleurs écuyère, hein, donc il y a un côté familial là. Et c'est un numéro qui va jouer pendant 20 ans et qui lui assure le succès.
Continuons à tourner les pages de votre journal. Alors, vous parlez à Chocolat dans votre journal. Vous dites, c'est formidable, 2011, j'ai trouvé un éditeur. Parce que votre éditeur habituel, qui est ?
Qui est Fayard, oui.
Et a refusé le projet sur Chocolat.
Voilà. Il a dit qu'il n'y avait pas de public pour ce livre.
Oui. Alors, Bayard reprend le flambeau. Alors, vous expliquez ça à Chocolat, vous faites un premier livre.
Oui.
Chocolat clown nègre. Et puis, vous expliquez à Chocolat, non seulement j'ai trouvé un éditeur, mais j'ai trouvé Marcel Bozonnet. Alors, attendez, là... L'ancien administrateur du Français, formidable comédien.
Ah oui, bah là j'avais décroché, j'allais dire, la timbale sur le plan théâtral, puisque on passait d'une petite forme, d'un petit spectacle, à une formidable pièce qui s'appelle Chocolat clown nègre, d'ailleurs, sur laquelle j'ai travaillé pendant... On s'est réunis avec Marcel pendant près d'un an, hein, toutes les semaines, pour élaborer ce spectacle.
Scène de répétition d'abord.
On doit lui donner à lui, à cet artiste qui a existé, sa part entière, sa plénitude, sa gravité, sa profondeur d'artiste.
Tu es africain, qu'est-ce que tu fais comme... Ah oui, c'est ça, tu es africain. Ah oui, oui, oui,
je suis le premier artiste noir de la scène française. Il n'y a eu personne avant moi. Le succès, tout de suite, à 18 ans, dans La Noce à Chocolat, pantomime nautique. Le public n'avait jamais vu un noir. Il me regardait. Il regardait mon visage avec attention. Et il croyait que ma face était barbouillée de suie. Il me regardait comme on regarde un être étrange. Je les faisais rire et je leur faisais peur.
Oui, sauf que là, il parle du public populaire. Mais vous avez constaté peu à peu que ceux qui ont applaudi les premiers et le plus fort au spectacle de Chocolat... Ce sont les élites parisiennes.
Oui, 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 c'est justement un artiste populaire, mais qui doit son succès aux élites. Et quand je dis les élites, c'est le Paris aristocratique. Il jouera même avec Foutit, ils joueront dans le salon des Rothschild. Enfin, il y a cette France, je dirais, de
high life,
comme on disait à l'époque, qui va beaucoup l'aider dans sa carrière.
Les journalistes.
Des journalistes aussi, notamment dans le Figaro de l'époque, qui était vraiment le quotidien de la vie culturelle qui écrit des comptes rendus qui sont vraiment dithyrambiques sur Chocolat.
Ça fait plaisir de vous entendre dire que le Figaro n'est pas raciste.
Ben, écoutez, à cette époque-là, enfin, ce que je dis là-dessus sur la question du racisme, vous savez qu'à cette époque, le mot racisme n'existe pas dans la langue française, mais c'est moi, j'ai beaucoup insisté sur la diversité, si vous voulez, des réactions. Parce qu'on ne tient pas assez compte de ça. Il y a des choses contradictoires, parce qu'elles se jouent sur des scènes différentes. Ce qui se passe sur la scène du spectacle, c'est différent de ce qui se passe sur la scène politique, vous voyez. Et il faut, quand on est historien, respecter aussi ces différences.
On n'a pas salué Yann Gaël Elouette, qui interprète Chocolat. Là, dans la version qu'on va dire Bozonnet.
Oui.
C'est bien, non ?
Ah ben oui, écoutez, moi je suis très heureux aussi que ce soit l'occasion de rendre hommage à ces artistes noirs qui ont joué Chocolat avant Omar Sy, parce qu'aujourd'hui avec le film, on risque d'oublier tout ça, mais c'est grâce à eux aussi que l'idée du film est née. Hein.
Yann Gaël Elouette, il est un peu cantonné, mais enfin c'est encore un jeune comédien, au rôle de flic noir, vous savez, dans les séries.
Oui, oui, oui.
Bah, c'est un peu comme Chocolat, dont la tradition, dans les histoires du cirque qu'on peut lire, nous le présente comme étant l'éternel souffre-douleur de Foutit.
Je m'appelle Foutit, je suis clown au Nouveau Cirque et je cherche un partenaire.
Tu es clown ?
Exactly. Tu peux gagner beaucoup d'argent, much money, tu comprends ? Je vais t'apprendre le job. Mais c'est moi qui te paie. Tu feras comme je te dis. Music !
Vous êtes un imbécile.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous racontons aujourd'hui avec notre témoin, Gérard Noiriel, le duo qu'il a composé, Gérard Noiriel, avec le clown Chocolat, depuis qu'il en a entrepris l'histoire en 2009. Vous avez entendu un extrait du spectacle de Marcel Bozonnet qui présente le duo Foutis de Chocolat. On est fin des années 1890, début des années 1900. C'est à peu près l'époque où va prendre son envol l'entrée des gladiateurs qui va devenir l'hymne du cirque qu'on a entendu. Mais on n'a pas d'enregistrement de Foutis et Chocolat. Quand on regarde les travaux sur le disque, l'histoire du disque de Martin Pennet, on voit que les clowns sont apparus plutôt dans les années 20. Et qu'en 1900, on enregistrait du lyrique, des chanteurs, des fanfares. Voilà, mais on a des films.
On a des films, voilà. Donc ça a été une source pour moi intéressante, puisque le problème que j'ai avec mon héros, si vous voulez, c'est que c'est pour ça que c'est mon héros aussi, c'est quelqu'un qui vient des milieux populaires. Et donc, il est non seulement noir, mais il vient d'un milieu populaire, c'est-à-dire que il est analphabète au départ, hein, et il ne parle pas le français, donc petit à petit il va aussi apprendre à lire et écrire, mais il n'a pas laissé de souvenirs. Pour faire une biographie, vous voyez, c'est plus compliqué que pour Marie Curie ou Jules Ferry. Donc, mais en tant que clown, évidemment, que mime, eh bien, il danse, il a une gestuelle qui parle pour lui, j'allais dire.
Mais comment donc, trouvez-vous ça?
Eh bien, ça, dans les archives, il y a 5 ou 6 films des Frères Lumière qui ont été conservés, plus 2 qui sont dans les archives de la Cinémathèque, qui ont été faits pour l'exposition de 1900. Et donc, j'ai décortiqué ces numéros. Au début, ils ne m'ont pas vraiment impressionné, même, c'est difficile, parce que de toute façon, ils sont pas dans le contexte du cirque, ils ont été refaits pour la caméra, donc on n'a pas l'ambiance du cirque, on n'a pas les paroles, etc. Mais en regardant de près ces numéros, en les repassant au ralenti geste après geste, j'ai découvert le langage de Chocolat et j'ai découvert surtout sa manière de résister aux humiliations. Et quand on dit aujourd'hui, dans les histoires du cirque, que Chocolat était le souffre-douleur de Foutis, je dis non, je dis regardez attentivement ces films, vous verrez les résistances de la part de Chocolat.
Alors, vous tenez votre journal. Dans le journal, vous parlez avec Chocolat. Et qu'est-ce que Chocolat vous répond quand vous lui dites ça?
Eh bien, justement, il me répond pas. C'est le grand problème et qui traverse aussi tout le livre, parce qu'à la fin, on comprend pourquoi il me répond pas. Parce que le mime, si vous voulez, il y a un double interdit. L'interdit qui pèse sur le mime, un mime ne doit pas prendre la parole, puis l'interdit qui pèse sur les Noirs à l'époque parce qu'ils sont exclus de l'espace public. Et c'est à la fin de sa vie, il va franchir cet interdit en voulant devenir comédien et son sort va décliner à partir de ce moment-là et finir tragiquement.
Alors avant qu'on en vienne au déclin et à ce que vous nommez la tragédie de la fin, notons quand même qu'il peut avoir des difficultés avec l'administration. Il n'est pas le seul. Une loi en 1893 a obligé tous les étrangers exerçant une activité professionnelle en France à se déclarer à la mairie de leur domicile. Chocolat va donc se rendre à la mairie à Paris avec Marie.
Oui, parce que c'est aussi une très belle histoire d'amour. Alors, j'insiste là-dessus, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup du vivre ensemble. Eh bien, là, on a un couple mixte avec, donc, Marie Equet, qui était mariée à un sieur Grimaldi, dont elle divorce, et elle vient vivre avec Chocolat et ses 2 enfants, et ils vont vivre jusqu'à la fin de leur vie ensemble. Et j'ai retrouvé une descendante de Marie, qui donc m'a raconté aussi qu'elle avait été mise au banc de sa famille, parce qu'elle avait vécu avec ce qu'on appelait à l'époque avec un nègre.
Revenons à cette procédure à laquelle doit se plier Chocolat, nous le disions, en compagnie de Marie.
Non, je vous demande votre nom, j'en ai 8 après vous, non.
Je suis le clown Chocolat.
Votre couleur de peau n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre état civil, tel qu'il a été enregistré sur votre acte de naissance.
Il n'en est pas, il n'en est jamais, monsieur.
Si vous ne répondez pas à mes questions, je ne pourrai pas remplir cette fiche et vous serez sous la menace d'une expulsion. En vertu de l'article 7 de la loi du 8 août 1893, qui impose aux étrangers qui travaillent en France de se faire enregistrer dans la commune où ils résident.
Padilla. Il s'appelle Raphaël Padilla.
Il vit dans ce pays depuis plus de 20 ans.
On ne lui a jamais demandé ses papiers jusqu'ici.
Vous êtes son épouse? Vous avez la copie de votre acte de mariage?
Nous sommes Nous vivons...
En concubinage, c'est ça?
Oh, c'est nous que ça regarde.
Ce n'est pas votre vie privée qui m'intéresse, madame. C'est l'intérêt national. Trop d'étrangers circulent dans notre pays sous de fausses identités afin de livrer nos secrets militaires aux ennemis de la France.
Bon, la procédure s'achèvera sans difficulté supplémentaire, vous le notez, Gérard Noiriel. C'est donc Marie, la compagne, qui crée un peu le nom de Padilla, le nom de famille.
Ça, c'est dans la pièce, mais c'est pas dans la réalité, c'est différent.
Allons bon.
Voilà, oui, oui. Dans la réalité, je dirais, c'est infiniment plus tragique, puisque Raphaël n'aura jamais d'état civil. C'est-à-dire, faut bien voir que nous sommes dans un pays où l'esclavage a été aboli en 1848, mais Raphaël, donc, lui, va conserver ce statut d'esclave jusqu'à sa mort. Et on lui donnera ce nom de Padilla après sa mort. C'est l'employé d'état civil qui a enregistré son décès en 1917, parce que lui, il fallait qu'il remplisse sa case, qui va mettre Padilla. Donc, quand on dit que Padilla est son vrai nom, je dis non, c'est pas vrai. Il faut se souvenir quand même que sous la République française, eh bien, il y a des gens qui n'ont jamais été émancipés, et c'est son cas.
À propos de recherche d'état civil et de retour sur la question de l'esclavage, on continue à tenir le journal de votre recherche sur Chocolat. Vous êtes allé à La Havane en fin de parcours.
Oui, 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 je tenais à... J'avais déjà été en correspondance avec, parce que j'ai mobilisé la terre entière, j'allais dire, des collègues historiens spécialistes de l'esclavage, et donc des collègues bon, qui m'ont vraiment aidé, mais ils n'ont rien retrouvé. Donc j'ai voulu y aller moi-même, et donc j'ai fait le parcours un peu initiatique, en fin de course, dans cette ville formidable qu'est La Havane, un petit peu sur les traces des lieux où il avait vécu.
Vous dites... que vous vous étonnez que, après trois quarts de siècle d'idéologie marxiste, les Cubains soient restés chrétiens. Ils sont un peu restés racistes aussi, non? Il n'y a pas beaucoup de noirs dans la hiérarchie du Parti communiste.
Dans la hiérarchie,
cubain.
Oui, oui, c'est-à-dire on voit encore quand on est dans La Havane la différence entre les quartiers. La vieille ville de La Havane qui a été laissée à l'abandon est une ville noire, alors que dès qu'on va dans les quartiers comme Vedado, etc., c'est des quartiers beaucoup plus blancs. Ça reste effectivement marquant. Oui.
Il ne va jamais revoir La Havane, évidemment. 1905, Foutit et Chocolat sont renvoyés par le nouveau directeur du nouveau cirque. Ils vont continuer leur carrière, mais avec beaucoup de difficultés. C'est très tragique dans le cas de Foutit, qui à un moment devient fou.
C'est-à-dire que Foutit...
Il finit alcoolique.
C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais remis ni l'un ni l'autre de s'être séparés, si vous voulez. Ils ont joué 10 ans ensemble, ils ont inventé quelque chose. Il faut quand même dire que le duo entre le clown blanc et l'Auguste que tout le monde connaît aujourd'hui, ça vient d'eux. Hein. Et ensuite, donc voilà, alors Foutit sombre aussi dans le déclin, il finit alcoolique, il achète un bar, ce qui n'était peut-être pas la meilleure solution.
Et il meurt à 57 ans, voilà, 23.
Voilà.
Quant à Chocolat, il meurt un peu plus jeune, en 1917, après avoir fait le clown thérapeute. Il a inventé le métier de clown thérapeute
auprès
des enfants malades.
Oui, il a même une médaille. Il a eu une médaille de la part de la République parce que c'est le premier clown qui a joué régulièrement pendant plusieurs années dans les hôpitaux de Paris. Et donc, il a été honoré. Je crois que c'est un point aussi qu'on pourrait rappeler.
Et quand il était tombé dans la pauvreté, il a été aussi l'objet de sollicitudes, de pétitions, de soutien, de souscriptions.
C'est ça.
Peut-être même dans le Figaro, non?
Oui, 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 c'est le Figaro
qui a été le grand.
Il y a eu deux souscriptions en sa faveur et c'est encore dans le Figaro. Il faut bien dire que la popularité de Foutit et Chocolat, c'est aussi il y a eu des albums, il y a eu des jouets, des jeux. Donc, ils ont une très grande popularité, surtout chez les enfants. Chocolat, c'est le clown adoré des enfants. Et quand il tombe dans la misère, le Figaro écrit un article et les enfants cassent leur tirelire pour aider Chocolat. Donc il y a un côté là très touchant, très pathétique, qui n'empêche pas que voilà, il sombre dans la déchéance.
Vous m'avez envoyé le livre chez Bayard avec cette dédicace. Il faut diversifier le panthéon de nos gloires nationales, et il vaut mieux en rire qu'en pleurer. C'est votre programme.
Oui, c'est mon programme. Oui, ce qui m'a... Je veux dire, on vit aujourd'hui dans un contexte tellement mortifère que d'avoir un héros qui puisse nous faire rire tout en nous racontant des histoires qui, elles, ont des côtés tragiques, je trouve ça formidable.
Vous parlez de la diversification de l'image de Chocolat. Alors dites donc, à l'époque, dites donc aujourd'hui, c'est pire encore, et ce, à cause de vous. Alors, l'exposition de la Maison des Métallos, ça vous contrôlez. L'édition
chez Bayard.
Ah bah oui,
je suis le commissaire de l'exposition.
Vous contrôlez.
J'espère que beaucoup de gens viendront la voir.
Je sais bien que vous n'êtes pas dépositaire de la mémoire, mais enfin, vous êtes obligé de vous battre sur beaucoup de fronts.
C'est sûr, c'est un peu la contradiction, c'est-à-dire que ce film porte, je veux dire, maintenant plus personne ne pourra ignorer, je pense, grâce à Omar Sy, l'existence du clown chocolat, mais en même temps, il y a une appropriation qui est faite, c'est le jeu de la mémoire, avec des choses qui revéhiculent à nouveau des stéréotypes et des erreurs historiques. Donc nous, sur notre site et notre association, on continue le combat. Ben, notre site, donc, on a créé un site chocolat qui s'appelle donc www.clown-chocolat.com où vous avez là toutes les informations, des documents.
Et alors, je vous prie de croire que ceux qui font des erreurs, ils reçoivent des gifles comme Chocolat en recevait de Footit. Histoire de vous énerver un peu, mais je ne vous laisserai pas le temps de réagir. Nous avons mêlé quelques extraits du film avec Omar Sy. Vous n'avez pas donné le nom du réalisateur.
Roche Dizem, bien sûr.
Avec un documentaire sur Chocolat, je me demande si vous n'allez pas y voir des stéréotypes d'aujourd'hui, peut-être presque aussi dangereux que ceux inverses des années précédentes.
La seule chose que je connaissais en rapport avec lui, c'est cette fameuse expression « des chocolats ».
Difficile d'imaginer que cet homme, Raphaël Padilla de son vrai nom, a pu être vraiment aimé en s'appelant Chocolat.
L'histoire de Chocolat raconte rien moins qu'un combat pour la liberté grâce au rire.
L'histoire de Chocolat au début du XXe siècle, c'est l'histoire d'une France coloniale.
C'est une place qu'on a laissée aussi aux Noirs, le rire, la bouffonnerie.
Toulouse-Lautrec l'immortalise en roi de la nuit, mais avec des traits simiesques qui témoignent d'une certaine ambivalence.
Pourquoi vous me dessinez comme ça? Le brave nègre bien soumis qui se prend son coup de pied au cul en souriant.
Oui, les gens y sont très attachés.
Vous faites de moi une attraction, un animal de foire. C'est ressemblant? C'est moi, c'est mon visage.
Chocolat, un livre chez Bayard, le deuxième de notre invité Gérard Noiriel, l'exposition La Maison des Métallos et le film avec Omar Sy. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Clara Garzon avec à la technique Charles Danet. Sachez aussi que la séance est de nouveau ouverte gratuitement pour les auditeurs de France Inter au Théâtre du Vieux Colombier avec les comédiens français. Ce sera le lundi 8 février prochain à 20h. Je vous donne déjà le numéro de téléphone que vous pouvez joindre, 01 44 58 15 15. Et le programme maintenant, 1840, le débat sur le retour des cendres de Napoléon aux Invalides. Janvier 1891, le débat sur la censure de la pièce de Thermidor, pendant lequel Clémenceau a prononcé sa fameuse maxime, la révolution, c'est un bloc. 01 44 58 15 15 avec Michel Favori, Bruno Raffaelli, Loïc Corbery et Laurent Natrella de la Comédie Française au Vieux Colombier à 20h.